Vivre en commun, l'émission de radio.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors nous sommes à la ferme de la Coume dans les Baronnies à Bagnos, plus exactement, pas très loin de Bagnères de Bigorre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait dans cette ferme? Quelles sont les activités de cette ferme?
Alors, il y a plusieurs activités. On est une petite ferme de montagne, on a 30 hectares. Et sur ces 30 hectares, on fait beaucoup de prairies. On a deux troupeaux, un troupeau de vaches et un troupeau de brebis, des petits troupeaux. Et on valorise tout en fromage. Et après, on fait aussi du maraîchage sur un hectare et demi. Une partie qui est ici à Bagnos et une autre partie, on a un jardin maintenant qui s'est développé depuis 2 ans à Ordizan, un peu plus bas à côté de Bagnères, là où il y a des bonnes terres maraîchage. Voilà, et on vend tout en vente directe, fromage, légumes, confiture, un peu de produits transformés à base de charcuterie, et saucisson, tout ça.
Alors, en vente directe à la ferme?
Alors, il y a à la ferme. Surtout l'été, il y a beaucoup de monde qui passe à la ferme pour nous visiter, faire les traites avec nous, tout ça. Et non, principalement au marché à Bagnères de Bigorre, le samedi matin, toute l'année. Ça, c'est un très beau marché. C'est une grande chance pour nous d'avoir un marché comme celui-là. Et après, on a aussi une AMAP, mais c'est surtout pour les légumes. On a 40 paniers toute l'année, 42 en ce moment. Avec aussi la possibilité de prendre du fromage et des yaourts, mais c'est surtout les légumes qui intéressent les AMAPiens.
Et vous êtes combien de personnes en activité sur cette ferme?
Il y a plusieurs statuts, mais on est en transition parce qu'il y a une des associées qui est sortie et une autre personne qui veut rentrer. Mais dans l'absolu, on va dire on est 4 associés, une personne par secteur d'activité et un conjoint collaborateur. Ça veut dire moi je m'occupe par exemple des brebis, Véronica s'occupe des vaches, ensuite il y a Orphée qui s'occupe du maraîchage. Et avant, il y avait aussi notre associé sur le maraîchage et Gabriel qui aide Orphée au maraîchage aussi. Et après, du coup, on a beaucoup de stagiaires aussi qui passent, qui viennent se former auprès de nous ou juste découvrir un autre mode de vie. Et ça, on en a à peu près deux un peu tout le temps. Et sur le lieu, il y a aussi des personnes qui vivent, qui nos conjoints en gros, quoi, qui travaillent à l'extérieur, mais qui vivent aussi sur le lieu. Donc tout confondu, on est plusieurs, ouais.
Alors comment s'organise le collectif entre ces différents secteurs, le maraîchage, les différents élevages
On est organisé en ERL, exploitation agricole à responsabilité limitée. Donc on est tous associés à cette ERL, c'est pas deux entités, il n'y a pas une entité maraîchage et une entité élevage, tout est ensemble déjà. Et donc on partage tout notre outil de travail, que ce soit les machines, les bâtiments, voilà, on gère ça ensemble. Et pour travailler ensemble, on a pas mal d'outils pour que ça fonctionne bien. On est en recherche par rapport à ça. On s'est beaucoup formé à la communication non violente, à la sociocratie, à la manière de prendre les décisions ensemble. Et aujourd'hui, comment on fonctionne? On a plusieurs réunions de différentes natures. On a les réunions de travail pour définir le travail de la semaine et s'organiser en conséquent, le partage du matériel, les déplacements à Bagnères, pour essayer d'être le plus efficace ensemble, de faire des économies d'échelle et tout ça. Après, on a une réunion le jeudi soir. Là, c'est une réunion qui concerne que les responsables, les associés et conjoints, pour prendre les décisions, pour diriger notre bateau. Voilà, et après, on a différents moments, plus ou moins formels, qui rassemblent les personnes qui vivent et travaillent. Par exemple, on a l'apéro du vendredi soir, où là, c'est toute personne confondue qui est présente sur le lieu, qui participe. Mais ça, c'est pas une obligation, quoi. C'est plus pour l'échange, le partage.
Parce qu'en tout, ça fait une dizaine de personnes. Quoi.
Ouais, c'est ça. Parce que aussi sur le lieu, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une association, en plus de l'ERL, l'association La Hunt, qui fait de l'accueil d'enfants sur des séjours, surtout l'été, mais aussi pendant les vacances scolaires de Pâques et aussi de la Toussaint. Et aussi quelques classes vertes depuis l'année dernière qui viennent du coup dans les périodes scolaires. Tout ça, c'est sur des séjours à thème. Et ces deux organisations différentes, là, c'est vraiment ils ont leur organisation et nous, ici, on a la nôtre. Mais on fait des ponts entre nous, mais c'est pas les mêmes personnes qui interagissent. Et voilà, et du coup, oui, il faut des moments de rencontre pour que tout ça fonctionne ensemble. Ouais.
Et en pratique, donc, cette ferme, la ferme centrale, il n'y a pas d'habitation?
Non. Alors du coup, ça, c'est le lieu qui s'y prêtait bien, où quand les personnes qui sont arrivées en premier, c'est Benoît et Véronica. C'est un couple âgé maintenant de 55-60. temps. Ils sont arrivés, donc il y a ce bâtiment principal où il y a tout notre outil de travail, aussi la cuisine collective pour les stagiaires et nous le midi, les salles de bain, cette salle des voûtes qui est plus à vocation culturelle, et après la bergerie, les tables, la fromagerie, la cave à légumes, l'atelier, les machines, les tracteurs et tout ça. Tout est là. Et après, sur le lieu, il y avait des anciennes granges foraines. C'était avant, ici, l'agriculture, elle n'était pas organisée comme nous aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Et du coup, c'était beaucoup plus localisé. Autour de chaque grange, il y avait, il y avait de quoi faire packager les animaux. Les animaux, ils rentraient les foins aussi à une certaine période. Les animaux, ils restaient dedans et le fumier était réparti. Donc, du coup, il y avait une organisation comme ça. Il y avait nous, on a 9 granges en tout sur le lieu où les animaux passaient, packageaient, mangeaient le foin. Et, voilà.
Sur une quarantaine d'hectares.
Sur 30 hectares de prés, et après on a 20 hectares de forêt aussi. Donc ça s'est beaucoup refermé dans cette région là. On est dans les Baronnies, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui ont arrêté et beaucoup de familles qui ont arrêté de faire l'agriculture. Donc du coup les terres se sont refermées très très fort là entre 1950 par là. Et donc du coup nous quand on est arrivé on a fait un gros travail de défrichage, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc sur ces granges là on en a rénové 5 je crois. Et donc chaque associé et sa famille et leur famille ont une grange. Après il y en a une pour les stagiaires, une pour les enfants là-haut. Et voilà, donc ça fait 5. Et on habite dedans.
Donc ça, vous habitez tous sur le lieu, sur le terrain.
Ouais, pour l'instant on habite tous sur le lieu. C'est des logements de fonction, donc c'est-à-dire que c'est la ferme qui les rénove. Et on y habite tant qu'on a une fonction dans la ferme, tant qu'on y travaille. Je dis pour l'instant parce que ça dépend aussi de chacun. Il y a beaucoup de liberté qui est laissée pour que chaque personne trouve son équilibre. Et par exemple, là, il y a un des couples qui est en recherche d'un autre habitat parce qu'ils ne sont pas satisfaits par cette proximité ou par cette rusticité, parce qu'il faut marcher. C'est des granges qui sont pas accessibles en voiture. Donc ça, c'est en fonction un peu des dynamiques humaines. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on vit tous sur le lieu. Ouais.
Alors, tu parles de l'activité du logement qui est liée à l'activité qu'on a sur la ferme. Ça nous amène à la question de la démarche foncière qui était aussi à la base du projet, avant même les activités agricoles qui s'y font et les gens qui y sont venus par la suite. Donc vous êtes en SCI, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début et comment c'est venu ce projet ?
Effectivement, c'est vraiment le démarrage du projet, la volonté de créer un autre lien à la terre qui ne passe pas par la propriété privée, que c'est pas l'agriculteur qui achète sa terre et qui du coup s'endette à une pression sur ses épaules qui est parfois trop grande. Là, l'idée, c'était donc d'accéder à la terre de manière collective. Donc Benoît et Véronica, c'était un couple, donc ils étaient en Alsace, maraîchers, et ils ont eu cette idée-là d'essayer une autre démarche d'accès au foncier qui soit plus collective via la SCI. Du coup, dans la SCI, au tout début, il y a des personnes qui ont pris des parts pour permettre l'achat du lieu.
Alors SCI, ça veut dire ?
Alors Société Civile Immobilière. Mais dès le début, il y avait cette volonté aussi de... Le mouvement Terre de Liens, il est né dans ces années-là aussi. Et dès le début, la volonté, c'était de ne pas rester en SCI tout le temps, mais de que la SCI soit quelque chose de transitoire pour aller ensuite vers la Fondation Terre de Liens, mais qui était quelque chose qui existe seulement depuis 2 ans maintenant, qui a mis du temps aussi à se créer. Pour l'instant, à l'intérieur de la SCI, il y a des porteurs de parts individuels, et il y a aussi une association alsacienne qui a accueilli des dons, parce qu'une SCI ne peut pas accueillir des dons. Et, sauf qu'il y a des personnes qui voulaient faire un don, pas prendre une part, juste de permettre l'achat du foncier sans plus être lié à cet argent. Et donc l'association a accueilli ces dons, aujourd'hui ça représente la moitié de la SCI, en vue que toute la ferme soit un jour donnée à la fondation. Aujourd'hui on en est là, on en est à cette étape d'étude là de comment on peut faire pour transvaser tous ces dons et toutes ces parts vers la fondation. L'idée de la fondation c'est de... parce que ce travail là de la SCI il est vraiment intéressant, mais souvent le problème c'est que ça s'arrête au bout d'une trentaine d'années parce que les personnes qui étaient à l'origine du projet, bah, petit à petit soit ils ont plus de force, soit ils sont plus intéressés, soit ils sont décédés. C'est des formules qui sont pas forcément pérennes. Et l'idée avec la fondation Terre de Liens c'est que du coup ce soit quelque chose qui existe au niveau national, où il y a des différentes entités régionales qui permettent le lien avec le propriétaire national, mais que du coup soit quelque chose qui puisse durer dans le temps et que ce soit pas lié à des individualités, mais plus à une volonté plus grande.
Parce que dans cette période transitoire, les parts elles appartiennent à des gens. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une part dans cette SCI ?
On essaie de faire une AG. Là en ce moment, on n'a pas fait depuis 1 an et demi, 2 ans. Pour l'instant, ça implique pas grand-chose. Ça implique, j'imagine, une responsabilité. Mais il n'y a pas, en fait, quelque
c'est
part
c'est pas nécessaire à l'activité à être présent sur le...
Non, pas du tout. Non, c'est plus permettre que ce genre de lieu existe. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas Ces porteurs de part, ils sont loin, parce que Benoît et Véronica, ils étaient en Alsace, donc ils ont accueilli des gens qui étaient autour d'eux, et donc des gens qui sont très présents et très actifs. Ça a permis en fait que ça existe, mais ça permet pas forcément aujourd'hui le fonctionnement. Même aujourd'hui, il est temps que ça aille vers la fondation, parce que c'est un peu à bout de force, cette histoire de SCI, et que ça a besoin d'être transmis.
Donc la SCI, et plus tard cette association ou la fondation ouais. Ce sera à qui appartient le terrain, et le ARL, c'est le matériel et les bêtes.
C'est ça. Nous, on utilise souvent l'image du théâtre où en fait tous les gradins, la scène, les rideaux, tout ça, c'est de la SCI. Et après, le jeu d'acteurs qui se passe sur la scène, ça, c'est les paysans, l'ERL. Et elle peut être structurée en ERL, comme en entreprise individuelle, comme en GAEC, peu importe. Il peut aussi y avoir plusieurs jeux de scène de paysans avec plusieurs différentes activités ou différents. Ça, peu importe. C'est pour ça qu'on a appelé ça aussi. On a utilisé le terme acte 1, 2 et 3, parce qu'il y a différentes étapes dans notre projet. Et là, on en est à l'acte 3, bientôt 4 peut-être, pour accéder au terrain, parce qu'il y a eu différents achats de foncier. Ça, tout s'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu d'abord une partie, je crois que c'était 25 hectares qui sont achetés, puis 18, puis 9. Pour constituer aujourd'hui la ferme. Nous, on a dans cette idée aussi que c'est quelque chose qui va évoluer. La forme d'aujourd'hui, elle est telle que ça correspond aux personnes qui sont là, mais demain, s'il y a d'autres gens qui arrivent et qui ont plus des besoins de fonctionner pour eux, sans forcément passer par la forme collective et tout ça, c'est imaginable. C'est pas fermé.
Oui, le ARL n'est pas forcément figé et pour tout le monde ou
non,
pour l'ensemble du terrain.
Non, pas du tout. Non, là, on est en train d'étudier même la possibilité de passer en GAEC.
C'est quoi la différence?
C'est une forme juridique différente qui donne accès à des aides et à une fiscalité différente. Donc c'est pour essayer de gagner plus de vie.
Parce qu'à un moment, vous étiez en SCEA.
Au début, on était en SCEA. Ouais, c'est ça. Au début, on était en SCEA. La grosse différence avec la SEA, c'est que la SEA, c'est pour permettre à des associations, par exemple, de prendre des parts dans le SEA, alors qu'une ERL, c'est forcément des individus. La SEA peut permettre, en tout cas, à des associations de prendre des parts et de participer sans forcément être paysan, alors que dans une ERL, c'est des paysans.
Donc ça s'est recentré sur les acteurs normands.
Ouais, plus lié aussi à la réalité. Parce qu'au début, ça se voulait très ouvert, et puis petit à petit, ça s'est vraiment lié aussi à la réalité, parce que le projet, il a vraiment démarré d'une idée, d'une image pionnière, et puis petit à petit les choses, elles se construisent au fur et à mesure avec les forces en présence et la réalité du quotidien.
Par rapport au lieu ici, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment on peut visualiser la ferme, les animaux, ça représente combien d'animaux, s'imaginer la ferme ici.
Alors on est une petite ferme du Piémont pyrénéen, située dans les Baronnies. Alors les Baronnies, c'est un ensemble de 25 petites communes là qui sont entre un triangle entre Bagnères, Lannemezan et la Vallée d'Or. C'est une zone un peu, une contrée un peu sauvage comme ça, où les livreurs, quand ils viennent avec leur véhicule, ils sont pas très contents, ils ont peur de se perdre. Parce que c'est plein de petites vallées, de creux, de collines, et le seul village qui est fléché, c'est le suivant, et pour sortir de là, c'est pas toujours évident. Moi j'aime bien, c'est un côté un peu sauvage qui me plaît.
C'est un peu labyrinthe.
Ouais, c'est un peu un labyrinthe. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est encore préservé quelque part, où c'est pas une zone très touristique. Il y a des gens que ça intéresse, mais moi j'aime bien ce côté-là. On est à 10 km de Bagnères de Bigorre, donc c'est là où il y a les principaux commerces, postes, cinéma et autres. Pas si loin que ça non plus. On fait le marché là-bas donc. Et donc c'est un territoire qui est pas évident à travailler au niveau agricole, parce qu'on a, donc 30 hectares de surface agricole utile, et sur ces 30 hectares, il y a 8 qui sont mécanisables et 6 fauchables. Du coup, il y a beaucoup de travail, c'est très physique, il y a beaucoup de travail manuel de débroussaillage et d'entretien du paysage, où on peut y aller qu'avec nos deux jambes. Donc c'est une agriculture pas facile. Et aussi au niveau du maraîchage, c'est une terre du coup de montagne qui au printemps, ça redémarre quand même plus tardivement que dans les plaines. On peut pas avoir le même sol forcément que ce qui se passe à côté de Bagnères de Bigorre par exemple. Mais voilà, c'est comme, on pourrait considérer ça un peu comme des handicaps, mais en même temps on peut aussi en faire des forces. Et nous en tout cas, c'est dans ce territoire-là qu'on a décidé d'œuvrer. Donc c'est un défi en plus peut-être d'avoir ce côté pente et peu de sol. Mais voilà, c'est possible.
animaux.
Alors voilà, du coup, après la ferme en elle-même, on a donc une dizaine de vaches, des brunes des Alpes, avec aussi des génisses et des jeunes bœufs qui nous permettent d'entretenir le territoire un peu plus loin, parce qu'on a des parcelles qui sont à plus d'une demi-heure de marche, et ça, pour les animaux laitiers, vu qu'on fait la traite le matin et le soir, on peut pas les emmener si loin. Et après, là, il y a une cinquantaine de brebis en lactation, plus pareil, le renouvellement et les béliers. Donc c'est vraiment des petits effectifs. En fait, nous, notre recherche, c'est vraiment d'avoir le nombre d'animaux suffisant pour entretenir le lieu, et à la fois d'avoir une production de fromage suffisante pour en vivre. On cherche un peu toujours cet équilibre-là, et là, on y est assez bien arrivé. Et ensuite, par rapport au maraîchage, donc on a 1,5 hectare de maraîchage avec 8 serres. On démarre aussi tous les plants ici. Donc on a des tables de semis avec une table chauffante, un endroit pour démarrer au printemps. Et là, on fait tous les légumes qui sont possibles de pousser dans notre contrée, quoi. Aussi sous les serres pour les tomates et les aubergines et tout ça. Et l'objectif, c'est d'avoir des légumes toute l'année. Donc là, on est donc au mois d'avril, et à fin avril, et c'est la période la plus difficile, où les légumes d'hiver sont terminés, sont en cave, il n'y a plus grand-chose, et puis les légumes de printemps sont encore en train de pousser, donc c'est le moment où on a du mal à remplir notre stand et nos paniers à la map. Mais ça va, on va y arriver cette année.
Alors, tu participes à la ferme, tu t'occupes des brebis depuis 6 ans. Comment tu es arrivé à travailler à cette ferme, et quel est ton parcours un petit peu ?
Ouais, c'était un assez long parcours avant d'arriver là. Donc, j'ai d'abord fait des études d'agronomie à Brest. J'ai fait un DUT qui m'a emmené à faire des stages donc à Toulouse, à l'INRA. Et là, j'étais vraiment dans l'agriculture conventionnelle. Et je me rendais compte que ça me correspondait pas. J'étais avec des animaux fistulés, là, ceux qui ont des trous dans le ventre pour faire des analyses dedans. Et là, moi, ça me faisait pas vibrer. Je sentais que c'était pas juste, ou il y avait quelque chose entre mes idées de vouloir changer les choses, de faire que le monde soit meilleur. Ça fonctionnait pas, parce que là, j'étais en train de participer à quelque chose qui avait un rapport à l'animal très matériel et moi qui me convenait pas. Et donc, du coup, je suis partie à la recherche d'autres choses en faisant du woofing. Donc ça, c'est un réseau d'échange entre des jeunes comme ça qui ont en recherche et qui veulent participer à des projets et des porteurs de projets. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, surtout en France, dans des fermes et aussi dans des lieux de vie, pour un peu voir moi c'est quoi qui me plaisait et qui me donnait du sens. Et c'est comme ça que je suis arrivée un jour ici à la ferme. J'étais arrivée pour quelques semaines et je connaissais pas cette ferme, j'avais jamais trop entendu parler, et je savais même pas que c'était en biodynamie, tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a saisie en arrivant là, je saurais pas définir avec des mots, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui m'a interpellée dans la manière d'être des personnes qui étaient là, la Benoît Véronica, et manière de faire dans ce petit système qui, c'était le début en fait du projet, je le savais pas, mais je suis arrivée en 2006, le projet il a démarré en 2003. Voilà, et du coup à l'issue des 3 semaines, ils m'ont proposé de rester 1 an pour faire comme un espèce de compagnonnage, de passer dans les différents secteurs, les brebis, les vaches, le maraîchage, la fromagerie, les travaux de l'extérieur. Et voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai fait avec une amie, Adeline aussi, qui était dans la même recherche, et son compagnon Séverin. On a fait ça pendant 1 an. Et durant cette année-là, on a beaucoup appris sur nous-mêmes aussi. Et pour moi, c'est devenu de plus en plus clair que cette manière de faire l'agriculture me correspondait. Sachant que mes parents sont agriculteurs, toute ma famille depuis des générations est agriculteur, même depuis toujours, je pense. Mais leurs pratiques, en tout cas, m'ont laissé très perplexe et très révoltée contre cette manière de faire. Et du coup, je pouvais pas du tout envisager à cette période-là pourtant d'être agricultrice. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé une autre manière d'être agricultrice qui me correspond aujourd'hui. Dans l'année, donc j'ai aussi découvert la biodynamie ici, et donc Benoît Véronica m'a proposé de rester avec eux sur le projet. Et à ce moment-là, j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, même pas 24. Enfin, je me sentais pas prête à m'engager et prendre des responsabilités, et surtout j'avais encore soif de comprendre, de connaître et de faire des expériences dans tous les sens. Et donc j'ai choisi de faire la formation en biodynamie en Alsace, à Auberdet, pendant 2 ans, c'est un BPREA. Et ça, c'était vraiment une très belle aventure, tant sur le plan des connaissances que sur le plan humain aussi, parce qu'il y a il y a vraiment le souci de, comment dirais-je, d'apprendre aussi à être ensemble. Et là, c'est une formation qui m'a beaucoup, beaucoup même si j'avais déjà beaucoup de connaissances en agriculture, dans, à la fois dans le pratique, parce que j'ai grandi dans une ferme, et aussi à la fois dans l'agronomie, la physiologie, et tout, ces, tout ce qu'on apprend à l'école, des molécules chimiques et autres.
Qu'est-ce qui était la différence alors? Quelle approche était différente dans cette formation?
Bah, la vie. C'était la vie qui était au cœur de la recherche, de comprendre la vie du sol, la vie de la plante, la vie de l'animal, et pas juste comment les organes les uns à côté des autres, ou quelles molécules apporter pour traiter contre telle maladie. Mais là, c'était vraiment comment garder la santé et d'être en, comment dirais-je, un peu en lien aussi avec la biodynamie. C'est une approche de l'agriculture qui prend en considération le fait qu'il y a effectivement la matière, mais que derrière la matière, il y a l'essence, il y a quelque chose d'autre, et de travailler avec ça aussi, et de travailler comme en interaction aussi avec, si on part du principe par exemple que la lune ça apporte une action sur la plante, alors du coup tout le système aussi des constellations et tout ça aussi. Donc la biodynamie c'est une manière de, une approche d'agriculture sensible qui prend en considération les forces qui sont en présence et les forces aussi en nous en tant qu'agriculteur et l'interaction qui est avec. Et pour moi cette formation elle m'a appris à être paysanne plus qu'à faire ou à comprendre, à connaître, mais vraiment à l'intérieur de moi, d'observer, de trouver la juste place de comment je me considère en tant qu'être humain pour élever un animal ou pour faire pousser une plante, ou c'est quoi la mort de l'animal aussi, qu'est-ce qui est juste là-dedans, quoi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment c'est une formation que je recommande beaucoup, qui m'a beaucoup enrichi. Et il y a aussi l'aspect humain où on est 20 dans une même recherche, et donc ça, les échanges sont très, très fructueux, et aussi ils nous mettent à disposition une caisse de solidarité à nous de gérer, comment on veut la gérer. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur c'est quoi un besoin financier, c'est quoi, comment on, voilà, ça donnait aussi lieu à beaucoup d'échanges et la solidarité, la fraternité dans l'économie et dans le, et c'est ce qu'on vit aussi ici en étant en collectif, ça nous, on est en permanence en train de se pétrir les uns les autres. Il faut que la fermentation soit bonne, il ne faut pas que ça devienne aigre, et c'est tout un travail.
Et donc après cette formation, tu es revenu ici?
Ouais, parce que quand au début ils m'ont proposé, c'était pas encore évident pour moi, et à la formation il y a tout qui s'est ouvert d'un coup, et là il y avait plein de possibilités, plein de gens, plein de, et sur la deuxième année ça m'a titillé de revenir ici, notamment par rapport à la démarche foncière qui avait beaucoup de sens pour moi. Du coup mes parents ils sont locataires de leur ferme là, et une partie propriétaire, et je sens qu'il n'y a pas trop d'avenir dans cette manière de prendre les choses, de considérer la terre comme un bien personnel et tout ça, de spéculation et autres. Il y a quelque chose qui ne me correspond pas là-dedans, et de vouloir que la terre devienne un bien commun, là, ça me résonne juste. C'est aussi une de mes quêtes, c'est pas que l'agriculture. Et donc ça m'a beaucoup parlé, et aussi je pense les personnes qui sont là, qui sont des personnes que j'affectionne beaucoup. Donc ça aide.
Parce que dans cette SCI, là, et dans cette démarche foncière, il y a la question de la continuité, de la transmission, qui est apparemment questionnée dès le départ.
Ouais, en fait, sur tout le projet, la transmission, c'est déjà c'était déjà un élément de base, parce que du coup, la SCI, elle voulait être transmise à la Fondation. Benoît, en arrivant ici, s'est dit, moi, j'y reste quelques années, le temps que, il est resté cette année, le temps de mettre en place l'activité, et après, il voulait aller faire autre chose. Donc du coup, dès le départ, c'était placé sur le thème de la transmission. Parce que c'est possible aussi. Parce qu'on arrive, moi je suis arrivée, j'avais pas de sous. Et j'ai reçu une DGA, une dotation jeune agriculteur de l'Europe. J'ai reçu 25 000 euros. Et ça, je les ai mis dans le RL comme part sociale. Et j'ai commencé comme ça, et c'était possible. Enfin, j'avais pas besoin de m'endetter, j'avais pas besoin de demander à mes parents ou quoi. Et ça, c'est une formule qui permet en tout cas de s'investir facilement, et aussi de pouvoir à un moment donné, si c'est plus juste, de repartir et de retransmettre à quelqu'un. Alors que si je regarde le modèle de mon frère par exemple, qui a acheté la ferme à, je sais pas, à 500 000 euros à mes parents, bah du coup il en a pour toute sa vie, si, ou alors après il faut qu'il vende et qu'il rembourse ses emprunts, mais il est bloqué. Alors qu'ici on est dans une formule où c'est possible de s'investir, et après ça met du temps. Moi là, fin 2017 j'ai décidé de partir, et donc là on est en train de travailler une transmission aussi, et c'est quelque chose qui met du temps. C'est des étapes, mais c'est possible. Ça, on ne devient pas esclave de son travail, c'est ça qui est intéressant aussi, qui fait que je pense que j'ai eu envie de m'y installer. Sinon, ça fait trop peur.
Alors, je reviens sur autre chose, sur le compagnonnage. Donc, toi, tu as fait un compagnonnage. C'est quelque chose qui a été réitéré sur la ferme.
Ouais. Du coup, on l'appelle compagnonnage, sachant que c'est pas du tout le compagnonnage comme on
entend. C'est votre version.
C'est notre version à nous, dans le sens, du coup, c'est permettre à des jeunes en recherche de se tester à l'agriculture durant une année, de faire le tour des saisons, donc, et aussi le tour des secteurs de la ferme. Du coup, on a accueilli en tout combien de personnes ? Moi, je devais être la deuxième avec Adeline, deux et trois. Et après, on a dû en accueillir cinq encore, quelque chose comme ça. Donc ouais, en tout, on est une petite dizaine à avoir fait ça sur la ferme. Pour l'instant, là, on ne le fait plus parce qu'on est en période de transmission. Du coup, c'est quelque chose qui demande de l'énergie aussi, donc on ne peut pas faire tout le temps. C'est quelque chose qui, à mon sens, qui est lié à un besoin réel de personnes de se confronter à la réalité, de vivre une longue période aussi, parce que l'agriculture, c'est quelque chose, comment dirais-je, qu'il faut être un peu endurant. Et donc, on ne peut pas se tester juste sur 3 semaines et se faire une idée de ce que ça représente. Il faut le vivre vraiment sur une longue période pour sentir si humainement on est et dans les forces physiques, on est capable de ça. C'est en ça où c'est vraiment intéressant comme expérience. Aujourd'hui, c'est la ferme qui finance ça, donc c'est un petit salariat. On a cherché à ce que ce soit en lien avec des formations ou le Pôle emploi ou des choses comme ça, que ce soit un petit peu reconnu ou en tout cas aidé dans le financement, que ce soit pas à la ferme, de la petite économie de la ferme, de porter forcément ce genre de démarche, ou pas en entier en tout cas. Mais on n'a pas encore trouvé ce cadre, mais ça nous intéresserait ouais, de réfléchir plus amplement à soutenir les jeunes dans leur recherche de ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font d'eux-mêmes.
Alors, je reviens à autre chose. La formation de BPROA en biodynamie, donc elle est en Alsace, et tu me disais qu'il y en avait une deuxième qui allait s'ouvrir ou qui était juste...
Ouais, il y en a une deuxième qui s'est ouverte
en
déjà.
France.
En France. Oui, en Allemagne, il y en a plein d'autres. En Hollande aussi, en Angleterre, il y en a, mais en France, il y en a désormais deux, depuis seulement il y a 2 ans. La première à Aubernais, elle s'est ouverte il y a une quinzaine d'années maintenant, et voilà, c'est une formation de 2 ans à chaque fois, donc c'est un cycle, quoi. Il n'y a pas un démarrage chaque année, c'est un redémarrage sur... tous les 2 ans. Enfin, il y a un groupe de personnes qui vivent pendant 2 ans la formation, puis ça s'arrête, puis là, un groupe d'autres personnes qui viennent. Et donc, à Ségré, ça s'est ouvert aussi donc en Loire-Atlantique, là, il y a 2 ans, avec un peu la même formule, un collège de maîtres de stage qui... je veux dire, c'est pas le ministère de l'Agriculture qui a créé cette formation, quoi. C'est venu d'un besoin des paysans, parce qu'il y a besoin de jeunes qui reprennent, qui s'installent et qui font vivre la biodynamie en France. Et donc, du coup, c'est parti de ces paysans qui ont cherché à rentrer dans les cadres d'une formation reconnue et financée, qui est un peu PROA, mais c'est un fonctionnement qui est tout différent, quoi. C'est vraiment les paysans qui décident, les paysans et un groupe de personnes liées au CFPPA de là-bas, qui choisissent vraiment, qui orientent la formation et dans les modules, les matières, les professeurs, qui est-ce qui vient. C'est en ça où c'est vraiment intéressant, parce que c'est proche de la réalité.
Tout à l'heure, tu te disais paysanne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une paysanne ?
Faire vivre un paysage et vivre de ce paysage. Ici, on a banni le mot exploitation agricole ou exploitant agricole. Alors, du coup, les conseillers agricoles qui viennent nous voir, ils rigolent avec ça. Mais pour nous, c'est vraiment important de ne pas être dans une exploitation de la terre ou des ressources de la terre, mais être dans une valorisation. Et pour moi, être paysan, c'est ça. C'est d'avoir en considération qu'on habite un territoire, qui a ses forces et ses faiblesses, et de les mettre en. Voilà, de les valoriser pour avoir une activité et essayer de vivre de ce travail-là.
Et être paysanne et biodynamiste ou en biodynamie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en plus ?
Bon, après, c'est propre à chacun. Je pense que chaque paysan trouve sa démarche. Moi, la biodynamie, c'est quelque chose qui me cause, parce que derrière, il y a une approche plus sensible et plus vraiment à la recherche, essayer de comprendre quel processus est en action et quelle interaction il y a avec les forces, les grandes forces de l'univers. Et cette approche spirituelle-là, elle me parle beaucoup, elle me nourrit aussi. Moi, pour moi, c'est une grande ouverture, et c'est aussi une façon de se considérer comme faisant partie d'un grand tout. Et en tant qu'être humain, être un acteur de ça, pas le seul. Mais voilà, c'est comment dirais-je, c'est une manière d'être en fait à la nature, aux animaux, qui est différente. C'est pas incompatible, la paysannerie et la biodynamie, au contraire.
Eh bien, merci beaucoup.
Et
est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur d'ajouter ?
Ouais, bah pour toutes les personnes qui s'intéressent et qui ont envie de se rapprocher de ça, il faut que ça passe par l'expérience, il ne faut pas rester dans sa tête. C'est trop souvent trop mental aujourd'hui notre vie là, à chercher à être dans les idées, dans le monde des idées et tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment le vivre dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, pour voir ce que ça implique et de faire fonctionner tout ça ensemble. Alors, il faut faire des stages, je crois que c'est difficile aujourd'hui de trouver des lieux comme nous qui accueillons. Nous, on est saturés en général, quoi. Il faut s'y prendre quelques mois à l'avance pour réussir à venir nous voir et faire une période avec nous. Mais voilà. Il faut... Mais ça n'empêche que c'est vraiment le chemin pour réussir à aller vers ça, c'est de faire, le vivre.
Merci.
Plaisir.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.